Le journal vous est présenté par Anne-Laure Jumet.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Emmanuel Macron, bien décidé à conduire sa réforme des retraites au 28e jour de grève. Elle sera menée à son terme, a dit le chef de l'État lors de ses vœux du 31 décembre, renvoyant à son Premier ministre la recherche d'un compromis rapide. De quoi crisper les syndicats contestataires. La CGT appelle d'ailleurs les Français à se mettre en grève. Décryptage dans un instant avec Pierre Neveu du service politique de France Culture. Dans ce contexte, entre en vigueur aujourd'hui la fin du statut de cheminot, application de la réforme ferroviaire votée en 2018. Nous verrons avec Hakim Kasmi ce que cela implique précisément. Le 1er janvier, c'est aussi l'entrée en vigueur de plusieurs mesures pour le pouvoir d'achat, dont la baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros. Invité de ce journal pour en parler, l'économiste Éric Ayer de l'OFCE. Direction aussi l'Australie dans ce journal, où les secours ont commencé à venir en aide aux milliers de personnes réfugiées dans des villes du littoral après avoir fui les incendies. Et puis une déclaration qui n'est pas passée inaperçue ce matin. La Corée du Nord annonce la fin du moratoire sur les essais nucléaire et promet une action sidérante contre les États-Unis. Nous décrypterons la partition que joue en ce moment Pyongyang. Et après ce journal, la suite avec vous, Raphaël Bourgois, de la Grande Table des Idées. Voilà, nous parlerons effectivement de cette grande table à suivre après le journal. 12h32 sur France Culture, la réforme des retraites sera menée à son terme. Hier, lors de la traditionnelle allocution du 31 décembre, Emmanuel Macron n'a donc sans surprise pas renoncé au futur régime universel par points. Le chef de l'État a toutefois pressé son Premier ministre de trouver un compromis rapide. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
Alors ce discours laisse donc un peu sur leur faim ceux qui attendaient des mesures plus concrètes. L'entourage d'Emmanuel Macron avait annoncé un discours d'apaisement, mais on retient plutôt sa détermination à faire cette réforme.
Apaiser ne veut pas dire renoncer. Ces quelques mots résument la pensée macronienne. Quoi qu'il arrive, comme en 2018 avec les Gilets jaunes et aujourd'hui avec la crise sociale autour de la réforme des retraites, le président avance dans l'attitude et par les mots, Emmanuel Macron réaffirme toute sa détermination.
Faut-il pour autant renoncer à changer notre pays et notre quotidien? Non. C'est pour cela que la réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme.
La réforme se fera car c'est un projet de justice sociale, martèle le chef de l'État qui place le Premier ministre devant ses responsabilités. C'est à lui de porter cette réforme qui constitue le marqueur de son quinquennat. Autant dire que la semaine qui s'annonce sera décisive dans un calendrier particulièrement serré. Mardi, le Premier ministre recevra les partenaires sociaux 48 heures avant une quatrième journée de mobilisation sociale, jeudi, et alors que plane également une menace de blocage des raffineries entre mardi et vendredi de la semaine prochaine. C'est donc à Édouard Philippe de trouver la voie d'un compromis rapide, dit le chef de l'État, sans évoquer l'âge pivot, tout en ouvrant une petite porte sur la pénibilité, sans que cela soit lié à un statut ou à une entreprise. Mais cette discussion se fera avec les syndicats qui le veulent. Petite phrase qui exclut la CGT, Force ouvrière, des centrales syndicales radicalement opposées à la suppression des régimes spéciaux, d'où cet appel ce matin du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, sur l'antenne de BFM.
Qu'on est dans un cadre de discussion où si on n'est pas d'accord avec eux, eh ben on a le droit de la fermer. On appelle tous les Français à se mobiliser, à aller en manifestation et à se mettre en grève. Voilà, c'est clair mon message. Parce que face à un président de la République qui fait de l'autosatisfaction et qui considère que tout va bien dans ce pays, il faut que le signal d'alarme il soit plus fort parce qu'apparemment, il n'a pas encore bien compris qu'il y avait un petit problème dans ce pays.
Alors autant dire qu'après cette allocution, les rôles sont clairement définis. Le président décide, le Premier ministre exécute. Quant aux syndicats, ils trouvent en ce discours tous les éléments pour accroître leur mobilisation.
Merci Pierre Neveu. J'ajoute que 10 900 000 téléspectateurs ont regardé hier soir ces vœux à la télévision. C'est à peu près un chiffre identique à celui de l'an dernier, hein, où 11 millions de personnes avaient visionné ces vœux du chef de l'État. C'est dans ce contexte qu'entre en vigueur aujourd'hui la réforme ferroviaire votée en 2018. Une réforme qui avait, elle aussi, suscité, on s'en souvient, de longs mois de grève, avec la fin donc du statut de cheminot pour les nouveaux entrants à la SNCF à partir d'aujourd'hui. Les explications d'Hakim Kasmi.
Avec la fin du statut de cheminot pour les nouveaux entrants à la SNCF, l'entreprise espère économiser 100 millions d'euros par an, une somme qui doit lui permettre en partie de réduire sa dette qui est de 46 milliards d'euros, mais aussi d'être plus compétitive avec l'ouverture à la concurrence pour les TGV à partir de 2020. avec des garanties pour les cheminots embauchés au statut qui passeraient à la concurrence si la SNCF devait perdre un appel d'offres face à une entreprise privée. Ils garderont donc le même salaire et la même retraite. Une retraite qui ne sera pas la même par contre pour les roulants, les conducteurs, les aiguilleurs ou les contrôleurs nés à partir de 1985 et pour les sédentaires qui travaillent dans les bureaux et les guichets nés à partir de 1980. Le groupe SNCF qui va aussi changer de statut afin de respecter le droit à la concurrence conformément à la demande de Bruxelles. Il sera donc scindé en 3 sociétés anonymes à capitaux publics, une nouvelle structure que dénoncent les syndicats car elle va créer des tensions sociales. En effet, le nombre de représentants et d'élus syndicaux sera divisé par 7 avec la fusion des comités d'entreprise, des délégués du personnel et les CHSCT qui seront regroupés dans 33 comités sociaux et économiques des CSE comme le prévoient de nouvelles ordonnances. Enfin, pour accroître sa productivité, la SNCF devra supprimer des postes chaque année en échange de la reprise d'une grande partie de la dette par l'État à hauteur de 35 milliards d'euros.
Les précisions d'Hakim Kasmi. À l'instant, la France condamne fermement l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad et exprime toute sa solidarité avec les États-Unis. Alors qu'on a eu également ce matin une première réaction de l'Iran après les raids américains en Irak contre des bases d'un mouvement proche du Hezbollah qui ont fait 25 morts. L'ayatollah Khamenei condamne avec force la malveillance des États-Unis quand Donald Trump menace, lui, quelques heures plus tôt, Téhéran de lui faire payer le prix fort après l'attaque de son ambassade. Ce matin, des centaines d'Irakiens pro-iraniens ont jeté des pierres sur cette ambassade et brûlé des drapeaux américains. Ils ont par ailleurs amené des centaines de matelas, couvertures et autres provisions pour tenir un rassemblement qu'ils annoncent illimité. L'Australie a donc entamé ce matin une opération de sauvetage de grande ampleur pour venir en aide aux milliers de personnes qui ont fui les incendies et se sont réfugiées, notamment sur des plages du sud-est et dans des villes situées sur le littoral. Les flammes ont ravagé de vastes zones du pays, faisant 8 morts en seulement 48 heures. Notre correspondant Grégory Pless nous appelle de Sydney.
Pour des milliers d'Australiens, la nouvelle année débute par une terrible gueule de bois. Dans la ville de Malakuta, prise au piège hier par les flammes, les 4000 habitants qui ont dû se réfugier sur la plage sont toujours coupés du monde. C'est l'armée qui assure leur ravitaillement avec des hélicoptères, tandis que la marine a envoyé 2 navires partis de Sydney qui arriveront sur place d'ici 2 ou 3 jours pour les évacuer. Plus au nord, dans la région de South Coast, c'est carrément la panique générale. Des milliers de foyers sont privés d'électricité, le réseau téléphonique et Internet est coupé sur un très large périmètre, les stations essence sont à court de carburant et aujourd'hui, des queues immenses se sont formées à l'entrée des supermarchés, les gens craignant de manquer d'eau et de nourriture. Malgré une relative accalmie aujourd'hui due à la baisse des températures, ce n'est pas ceux qui sont chargés de les secourir qui vont les rassurer. Le commissaire chargé des services d'urgence dans l'état du Victoria a aujourd'hui déclaré qu'il n'était tout simplement pas en mesure d'éteindre ces incendies.
Grégory Place, notre correspondant, donc sur place. Pas de trêve du nouvel an à Hong Kong. La nuit du réveillon a été marquée par des affrontements entre des protestataires et la police. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc pour disperser la foule. Et c'est dans ce contexte que se déroule en ce moment une nouvelle manifestation anti-gouvernementale. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants battent le pavé. Récit de notre correspondante en Chine, Angélique Forget.
À Hong Kong, c'est une tradition. Chaque 1er janvier, les militants pro-démocratie se réunissent dans la rue pour une grande marche. Cette année, elle a forcément une saveur particulière. Depuis juin dernier, l'ancienne colonie britannique est traversée par une crise sans précédent depuis sa rétrocession à la Chine en 1997. La manifestation organisée par le Front civique des droits de l'homme et autorisée par les autorités s'est d'abord déroulée dans le calme, avant qu'au pied des gratte-ciels, forces de l'ordre et protestataires n'échangent tirs de gaz lacrymogène et jets de cocktails Molotov, une scène désormais habituelle à Hong Kong et qui pourrait encore se répéter tant le gouvernement se montre inflexible. Dans une courte vidéo diffusée la veille du nouvel an, Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongais, a assuré qu'elle comptait écouter humblement pour trouver une issue, mais ne fait aucune référence aux demandes des manifestants. De son côté à Pékin, le président chinois Xi Jinping, pour ses vœux de nouvelle année, a promis de maintenir la prospérité et la stabilité de Hong Kong. Pas vraiment de quoi calmer la colère des pro-démocratie qui réclament le suffrage universel, une enquête indépendante sur les violences policières et l'amnistie pour toutes les personnes arrêtées depuis le début du mouvement de contestation. Elles sont déjà plus de 6000 d'après les chiffres de la police.
Angélique Farge, la correspondante en Chine pour France Culture. Venons-en maintenant à cette déclaration choc du dirigeant nord-coréen ce matin. Kim Jong-un annonce la fin du moratoire sur les essais nucléaires et promet une action sidérante contre les États-Unis. Le monde va découvrir dans un proche avenir une nouvelle arme stratégique que détient la Corée du Nord, a-t-il ajouté. Alors, pas de réaction tonitruante du côté des États-Unis. Le président américain soulignait plutôt hier soir la bonne relation qu'il entretenait avec Kim Jong-un, estimant que ce dernier tiendrait parole après l'accord signé en 2018 sur le démantèlement de son arsenal nucléaire. Les pourparlers entre les deux pays sont pourtant au point mort depuis l'échec du sommet d'Hanoï en février 2019. Écoutez l'analyse d'Antoine Bondaz, directeur du programme Corée à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
L'annonce qui a été faite aujourd'hui par Kim Jong-un n'est pas la reprise à court terme des essais nucléaires et des essais de missiles à longue portée, mais la fin du moratoire que la Corée du Nord avait annoncé en avril 2018. Cela ne veut pas forcément dire qu'il y aura des essais à court terme, mais que la Corée du Nord se donne les moyens, si elle le souhaite, de reprendre ces essais. C'est quelque chose d'assez courant dans les techniques de négociation nord-coréenne afin de faire pression sur les États-Unis. Cette ambiguïté stratégique permet à la Corée du Nord de garder une certaine flexibilité dans ses négociations. L'objectif côté nord-coréen, c'est d'obtenir des concessions des États-Unis, puisque son économie, depuis le renforcement considérable des sanctions en 2016 et en 2017, souffre aujourd'hui. Kim Jong-un critique les États-Unis, mais ne critique pas le président Trump, afin d'essayer d'obtenir, peut-être dans le cadre de la campagne présidentielle américaine, des concessions du président Trump. Donald Trump n'a pas forcément besoin d'un nouvel accord à court terme, il a surtout besoin d'éviter que la Corée du Nord reprenne ses essais nucléaires et balistiques à longue portée. Et ça, la Corée du Nord en a bien conscience.
Des propos recueillis par Valérie Crova. 12h42 sur France Culture et toujours d'importantes zones d'ombre autour de la spectaculaire fuite de Carlos Ghosn du Japon vers le Liban. Serait-elle l'œuvre d'une agence de sécurité privée, comme le relate un journal libanais? Il semble en tout cas que Carole Ghosn, son épouse, ait joué un rôle déterminant dans l'opération. L'entourage de l'ex-patron de Renault-Nissan dément en revanche une autre information de la presse libanaise selon laquelle il aurait été caché dans une boîte destinée au stockage d'instruments de musique au Japon. C'est la sidération, pas encore de prise de parole des autorités et une presse qui fait bien sûr ses gros titres sur cette fuite. Les journaux s'inquiètent de la façon dont il a quitté le pays et s'interrogent sur les possibles failles du système, mais ce n'est pas tout. Elle est aussi majoritairement très critique à l'égard de Carlos Ghosn qui a définitivement perdu son image de star. À Tokyo, la correspondance de Karine Nishimura.
Pour la presse et l'opinion publique japonaise, l'affaire est entendue. En s'enfuyant du Japon, Carlos Ghosn fait acte de lâcheté, signe presque sa culpabilité. L'affaire Ghosn était vue par certains comme l'occasion d'éclairer la face sombre du système judiciaire japonais et de l'améliorer en tenant compte des critiques de l'étranger. Peine perdue, cette posture est presque devenue intenable car le geste de Ghosn, fuir la justice, apparaît impossible à défendre publiquement. Au mieux, certains disent comprendre qu'il est craqué, qu'il se soit senti pris au piège, mais la plupart estiment qu'il a choisi la pire des solutions. Le résultat, c'est un appel au renforcement des mesures de surveillance à l'égard des inculpés libérés sous caution, principalement les étrangers, ceux qui présentent le plus gros risque de fuite. Alors même que la détention provisoire tendait à être réduite ces dernières années, une évolution jugée positive par les avocats et organismes de défense des droits humains, l'évasion de Carlos Ghosn risque d'entraîner un retour en arrière dommageable aux droits de la défense, le contraire de ce qui était espéré à travers cette affaire au retentissement mondial.
Karine Nishimura, notre correspondante à Tokyo. Retour en France avec le 1er janvier, son lot de changements et des nouveautés pour le pouvoir d'achat. Invité de ce journal, Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous en ce 1er janvier. Alors c'était l'une des mesures annoncées pour répondre au mouvement des Gilets jaunes et elle entre en vigueur ce mois-ci. Je veux parler de la baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros. Elle sera visible à la fin du mois sur la fiche de paye pour 17 millions de contribuables avec un gain moyen annuel compris entre 180 et 350 euros. Est-ce que c'est bon pour la croissance?
Alors oui, normalement c'est bon pour la croissance, parce que ça va donner un peu de pouvoir d'achat, et donc on espère que ce pouvoir d'achat se traduise par un peu plus de consommation, et donc que les entreprises en profitent pour avoir des carnets de commandes un peu supérieurs. Alors faut quand même se méfier, parce que on a bien vu avec l'année 2019, où on avait énormément de pouvoir d'achat, les ménages l'ont plutôt épargné globalement que consommé. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une incidence directe sur
ça
la consommation. Ça
ne se transforme pas, oui, voilà. Forcément en consommation.
Non, ça ne se transforme pas. Donc après l'épargne, vous voyez, c'est pas forcément mauvais l'épargne. Ça peut être aussi un élément pour l'investissement des entreprises. Mais globalement, le gouvernement souhaiterait, et globalement si on veut un tout petit peu impulser la croissance économique, ce qui n'est pas forcément un bon signal pour l'environnement, mais si on veut l'impulser, il faudrait que les ménages le consomment. C'est pas gagné dans un contexte de crise sociale et donc finalement d'épargne de précaution, c'est-à-dire que les ménages ne savent pas exactement de quoi ça fait l'avenir. On peut penser qu'une grande partie sera encore épargnée.
Alors on rappelle aussi que 2020, c'est aussi la fin annoncée de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, la réindexation des petites retraites en dessous de 2000 euros, la revalorisation de la prime d'activité, donc deux nouvelles mesures pour le pouvoir d'achat. Est-ce que vous parleriez de choc même positif pour le pouvoir d'achat? Vous l'aviez un peu dit en 2019, déjà avec les mesures post-gilets jaunes, là c'est la suite.
Oui, c'est la suite, mais c'est un choc qui est deux fois inférieur à celui de 2019. En gros, 2019, c'est à peu près 11 milliards de mesures fiscales qui allaient vers les ménages. Là, on parle plutôt de un peu moins de 7 milliards, aux alentours de 6 milliards et demi. Donc c'est quand même moins qu'en 2019. Et c'est encore une fois dans un contexte un peu incertain. Et donc lorsqu'il y a de l'incertitude, il y a beaucoup d'épargne. Et encore une fois, cette épargne n'est pas forcément très bon pour la croissance à court terme. À moyen terme, ça se discute.
Et puis, il faut financer ces mesures. Est-ce que c'est pas là aussi que le bât blesse?
Alors oui et non, c'est-à-dire que globalement les déficits vont se réduire en 2020 par rapport à
2,2% du PIB.
Voilà, 2,2, nous sommes plutôt à 2,3, mais allez, on n'est pas à 0,1 près. En grande partie parce que 2019 était une année très particulière avec ce double compte de CICE. On avait donc les entreprises touchaient deux fois le CICE, une fois en CICE, une fois en baisse de cotisation. Ça avait fait augmenter le déficit et fait dépasser
au-dessus des 3%.
Là, on va revenir en dessous des 3%, finalement, c'est un peu ce qui est maintenant dans les tuyaux de la Commission, c'est-à-dire qu'il faut qu'on reste en dessous des 3%. On va pas complètement respecter nos engagements budgétaires, mais on a envie de dire qu'aujourd'hui, c'est pas ça vraiment la préoccupation première.
C'est-à-dire que ça n'est plus un totem pour Emmanuel Macron.
Alors, ni pour Emmanuel Macron, ni pour la Commission européenne. On voit bien qu'aujourd'hui, l'année 2020, ça aura une année un tout petit peu, entre guillemets, de relance budgétaire. Il y a un grand nombre de pays, notamment l'Allemagne, ceux qui ont des marges de manœuvre, mais aussi des pays comme l'Italie ou l'Espagne, qui vont plutôt relâcher la contrainte budgétaire plutôt que la resserrer. Donc, pourvu qu'on soit en dessous des 3%, c'est déjà, à mon sens, le plus important. Ensuite, il va falloir réduire ce qu'on appelle le déficit structurel, mais aujourd'hui, la Commission européenne n'est pas vraiment très regardante dessus.
Le niveau de la dette, ne vous inquiète pas, on a franchi à la barre des 100% du PIB?
Alors, on l'a franchi, mais on devrait la refranchir dans l'autre sens au courant de cette année. Alors, à court terme, non, c'est pas très inquiétant parce qu'on a des taux d'intérêt sur cette dette publique qui sont extrêmement faibles et aujourd'hui les charges d'intérêt sont inférieures aujourd'hui alors qu'on est à 100 points de dette publique que dans les années où notre dette était à 60 aux alentours de 62-63. Donc aujourd'hui, tant que les taux d'intérêt restent en dessous de la croissance, c'est pas un problème. Ça sera sans doute un problème si les taux d'intérêt venaient à augmenter, mais ça sera ni en 2020 ni en 2021. Donc on a un tout petit peu de temps pour s'occuper de la dette publique. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire et faire n'importe quoi avec, mais c'est pas ça l'enjeu principal de l'année 2020.
Alors malgré les mesures de pouvoir d'achat qu'on vient d'évoquer, le ministre de l'économie Bruno Le Maire prévoit un ralentissement en 2020. C'est aussi ce que vous anticipez, Éric Heyer?
Alors, ça sera un ralentissement. Alors, si vous voulez avoir les chiffres, en gros, globalement, il faut avoir 2018, on était plutôt à 1,7. Le ralentissement en 2019 était déjà acté à 1,3. Et là, on devrait se situer aux alentours de 1,3, 1,2, 1,3. Donc, vous voyez, on est
léger
à peu près dans le même ordre de grandeur que 2019. Donc, c'est pas un franc ralentissement. C'est, il faut rappeler, on est dans un contexte mondial de ralentissement, lui, beaucoup plus marqué. C'est-à-dire que on a les pays, y compris les pays en voie de développement comme la Chine, qui ralentissent beaucoup plus. On a notre principal partenaire européen, l'Allemagne, qui ralentit très franchement, nous, on va dire qu'on est dans une croissance qui est à peu près identique en 2020 qu'elle l'était en 2019. Une croissance à 1,2, 1,3, vous voyez, c'est bien et pas bien. C'est bien quand on se compare aux autres pays. C'est pas suffisant pour faire baisser le chômage de façon significative. C'est-à-dire que le chômage va baisser, mais tout doucement, on devrait avoir une baisse de 0,1, 0,2. Vous voyez, donc la situation sur le front du chômage ne peut pas s'améliorer significativement lorsqu'on a des types de croissance aux alentours de 1,2, 1,3.
Est-ce que le gouvernement, du coup, a raison de ne pas octroyer de coup de pouce au SMIC, hein? Ça fait plusieurs années qu'il n'est revalorisé que du minimum légal. Est-ce qu'effectivement, ça pèse sur la compétitivité des entreprises?
Alors, ça pèse oui et non. C'est-à-dire que globalement, en France, dès qu'on on augmente le SMIC, il y a des baisses de cotisations pour les employeurs qui stabilisent, en fait, en gros, globalement, le coût du travail. Alors, par contre, ça augmente le coût pour les finances publiques. Donc, là aussi, on est dans ce triangle où on veut à la fois ne pas détériorer la compétitivité, améliorer le pouvoir d'achat des ménages sans détériorer les finances publiques. Non, à un moment, on ne peut pas arriver à tout faire. Là, aujourd'hui, le gouvernement considère que c'est les créations d'emplois qui priment sur le coup de pouce au SMIC. Effectivement, 2019, faut le rappeler, ça a été une très 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 bonne année pour les créations d'emplois.
260 000,
avec encore une fois 1,3 de croissance, c'est quasiment du jamais vu. C'est-à-dire que normalement, 260 000 créations d'emplois, on arrive à ces créations avec plutôt une croissance économique aux alentours de 1,7, 1,8. Donc là, on a effectivement eu beaucoup de créations d'emplois. Ça devrait pas être la même chose, malheureusement, en 2020. C'est-à-dire qu'avec 1,2, on va pas reproduire ce type de création d'emplois. On va en avoir. On prévoit, nous, aux alentours de 98 000 créations d'emplois cette année.
Oui, on ralentit quand même assez
donc
nettement.
Donc là, on ralentit assez nettement parce que des mesures qui soutenaient finalement ces créations d'emplois, vous voyez, lorsque vous faites votre bascule du CICE, ça aide à baisser le coût du travail, donc ça aide à créer l'emploi. C'est un coût pour les finances publiques, encore une fois. Là, cette aide va s'arrêter. Il n'y aura pas un double compte en 2020. Donc, il n'y aura qu'un moins de création d'emplois, malheureusement. Et donc, bah oui, le pouvoir d'achat, le gouvernement préfère augmenter le pouvoir d'achat par des mesures fiscales plutôt que par un coup de pouce. Ça se discute, mais c'est recevable.
Merci beaucoup de toutes ces explications, Éric Ayer. Je rappelle que vous êtes directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci d'avoir été notre invité dans ce journal. Le 1er janvier, et son lot de changements, on le disait, c'est aussi les lunettes de vue et les prothèses dentaires totalement remboursées. C'était là aussi une promesse du candidat Macron. Le reste à charge zéro s'applique désormais dans l'optique et les soins dentaires. La mesure concerne des produits de base. Dans l'optique, 17 modèles de montures ont été conçus pour être intégralement remboursés. Et cette mesure, elle coûte cher aux complémentaires qui vont probablement et même très certainement augmenter leurs tarifs. C'est en tout cas l'avis de Cyril Chartier-Kassler qui dirige un cabinet d'études spécialisé dans le secteur de l'assurance maladie.
Je prends un exemple. Si vous êtes boulanger et qu'on vous demande de faire une baguette avec un pain de meilleure qualité, vous le percuterez dans le prix de votre baguette. Bon, là c'est la même chose. On demande aux complémentaires santé d'avoir un panier de soins de base qui soit plus important pour que l'assuré soit mieux remboursé. Si le panier de soins est plus important, ça a un impact sur le tarif, inévitablement. Le problème de cette idée, c'est qu'elle a une dimension très politique qui permet de dire aux Français, grâce au gouvernement, vous êtes mieux remboursés en optique et en dentaire et pour prothèses auditives. Mais la conséquence, c'est que ce que je mettais hier de ma poche, demain, si je veux être remboursé, je mettrai dans une complémentaire santé, qui fera très bien son travail, qui aura des réseaux de soins, etc. Mais mettre ça dans un complémentaire santé, ça veut dire payer une taxe de 13,3%, payer de la mutualisation. Donc globalement, ça surenchérit le coût de la prestation. Pour l'assuré social, in fine, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle d'un point de vue financier.
Des propos recueillis par Damien Mestre. J'ajoute aussi que le prix du paquet de cigarettes augmente. En ce 1er janvier, il passe à 8,10 € ou 8,20 € selon les marques. Un mot pour finir du temps pour aujourd'hui. Souvent gris sur le nord du pays, plus lumineux sur le sud-est. Cet après-midi, il fera entre 2 et 6 degrés du nord au nord-est, en passant par l'Île-de-France, jusqu'à 14 à 17 degrés de la Côte d'Azur à la Corse.